Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, il se fera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions. Ô Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse cette divine consolation par le même Jésus-Christ, notre Seigneur, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Notre Saint Georges gardien, veillez sur nous. Saint Pilice, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, eh bien, chers amis, nous avançons dans le traité de la tempérance. Deuxième partie de ce traité. Donc, des questions 155 jusqu'à la question 170 de la seconda secundae. C'est une partie plus facile. Avec encore beaucoup de choses importantes, notamment sur la colère et puis sur le péché originel. On va voir tout ça. Donc, je vous rappelle que la vertu de tempérance est une vertu cardinale, donc qui a pour but, avec les trois autres vertus cardinales, de prudence, de justice et de force, d'enrayer en nous, au moins en tant que faire se peut, les conséquences du péché originel. Je m'excuse de répéter ces choses-là souvent, mais c'est important pour ceux qui prennent le cours en milieu, qu'ils comprennent bien les choses. Donc toute la vie spirituelle est basée sur cette vertu. Les trois vertus théologales les plus hautes, donc la foi pour croire, l'espérance pour prier et la charité pour obéir à la loi du bon Dieu. Puis ensuite les quatre vertus cardinales de prudence, de justice, de force et de tempérance qui se situent toutes dans un juste milieu. Donc la prudence va corriger l'ignorance de l'intelligence qui est une conséquence du péché originel, même pour les baptisés, ce qu'on appelle une blessure. La justice va corriger la blessure de la volonté qui est la malice. La force va corriger la blessure de l'irascible qui est la faiblesse. Et la tempérance va corriger la vertu, la blessure du concupiscible qu'on appelle la concupiscence. Bon, si on veut être complet, selon Saint Jean, il y a trois concupiscences, les yeux, la chair et l'orgueil. Donc trois vertus qu'on appelle des vertus morales qui vont se rajouter à ces quatre vertus cardinales. Donc la pauvreté pour contrer la concupiscence des yeux, la chasteté pour contrer la concupiscence de la chair et l'obéissance pour contrer l'orgueil. Nous en sommes à la question 155 sur les parties potentielles de la tempérance. On va voir aussi toutes les vertus qui sont unies à la vertu de tempérance. D'abord, saint Thomas d'Aquin va définir la vertu de continence. Il donne deux définitions, soit la privation de tous les plaisirs de la chair. Soit la résistance au penchant les plus déréglés de la concupiscence. Donc la privation de tous les péchés de la chair, c'est la continence parfaite qui se trouve principalement dans la virginité et secondairement dans la viduité pour les gens qui sont veufs. Dans ce sens, elle est une vertu. S'entend-elle au contraire de la résistance au penchant les plus déréglés de la concupiscence, elle n'arrive pas à la perfection de la vertu même. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, la vertu de chasteté n'est pas une vertu réservée aux religieux et religieuses. Beaucoup de gens pensent ça. Oh, la chasteté, c'est pour les curés. Et non, la chasteté, c'est pour tout le monde. Il y a une chasteté conjugale dans le mariage, ce qui n'est pas une chasteté totale, bien sûr, puisque le bon Dieu a voulu l'union des corps dans le mariage, mais il y a une chasteté dans le mariage, parce que dans le mariage, les époux ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent, et quand ils veulent, et comme ils veulent. Il y a des lois que le bon Dieu nous a données par son Église. Alors, il faut faire un petit peu attention. Il faut comprendre que la chasteté, sont tenus à la chasteté parfaite, pas simplement les religieux, donc les prêtres, les religieux, les religieuses, mais aussi les gens qui sont tout seuls, les gens qui ne sont pas mariés. Donc, ils ne sont pas mariés, sont tenus à la chasteté parfaite. Les veufs et les veuves sont tenus, après la mort de leur époux ou de leur épouse, sont tenus à la chasteté parfaite. Donc, il faut faire attention à cette vertu qui est importante. Saint Thomas se pose, donc on va approfondir un peu la chose, donc dans cette question sur la nature de la continence, sa matière, son sujet, son rapport, son rapport avec la tempérance, donc il se pose la question de savoir si la continence a pour objet la concupiscence des plaisirs du toucher. Bon. Et la réponse est positive. La continence et l'incontinence, donc le contraire de la continence, ont pour objet, comme la tempérance et l'intempérance, les plaisirs du toucher. Donc la continence est à la tempérance, ce que l'incontinence est à l'intempérance. Mais les jouissances de la chair étant plus violentes que celles de la table, la continence s'entend ordinairement des plaisirs de la chair. Ça dépend un peu de la signification locale. Selon les différents pays, ce n'est pas la même chose. Les termes peuvent avoir un sens un peu plus précis en français ou en d'autres langues parfois. La continence, le mot continence en français, regarde pas simplement les plaisirs de la chair, mais aussi, dans certains sens, peut regarder aussi les plaisirs de la table. On parle d'une continence, d'avoir un peu de continence dans la nourriture, par exemple. Alors, la continence a son siège non dans la puissance concupiscible, contrairement à ce qu'on pourrait croire, mais dans la volonté. C'est un acte de la volonté. Elle a pour sujet donc cette volonté. Le concupiscible, même dans l'homme chaste, a des propensions dépravées, à cause justement de l'attaque de la concupiscence. La différence entre l'homme continent et l'incontinent, dit saint Thomas, c'est que quelle que soit la violence des tentations, le continent suit la raison, qui domine donc la concupiscence. Au contraire, chez l'incontinent, l'incontinent va oublier la lumière de la raison pour suivre les sensations de la chair, les passions de la chair. Donc voilà pourquoi la continence, dit-il, a pour sujet la volonté qui choisit entre la résistance ou le consentement à la concupiscence. Il faut faire attention aux termes qu'on utilise. Souvent, les gens mélangent la concupiscence et le concupiscible. Le concupiscible est une puissance de notre âme. C'est quelque chose de bon, comme l'intelligence, comme la volonté, comme l'irascible. L'intelligence est une puissance de notre âme pour découvrir le vrai, la volonté c'est une puissance de notre âme pour atteindre le bien, l'irascible c'est une puissance de notre âme pour combattre les difficultés et les tentations, et le concupiscible c'est une puissance de notre âme qui nous permet d'être attiré par les choses. Imaginez qu'on n'ait plus d'attirance pour la nourriture du tout, on n'ait plus envie de manger, c'est terrible. Quelqu'un qui n'a plus envie de manger du tout, il y a des gens comme ça qui ne mangent plus rien, n'ont plus du tout envie de manger, des personnes âgées par exemple. Ça peut être de gros problèmes pour leur vie, leur survie tout simplement. Ils n'ont plus envie de manger, ils n'ont plus aucun intérêt pour la nourriture. Ils cessent de mourir de faim, littéralement. Et bien donc, il faut, en notre âme, en notre corps, une puissance qui va nous aider justement à utiliser les choses qui sont nécessaires pour la vie, soit pour la vie physique, la nourriture par exemple, soit pour la reproduction de l'espèce, c'est tout ce qui touche justement aux lois du mariage. Donc, la tempérance étant une vertu cardinale plus générale, va avoir donc une supériorité sur la continence. La continence, en quelque sorte, est une partie potentielle de la tempérance. Alors, après cette introduction, saint Thomas va donc aborder, comme il le fait à chaque fois, donc le vice inverse, c'est-à-dire l'incontinence. Alors il se pose la première question, c'est la question 156, premier article, l'incontinence est-elle dans l'âme ou dans le corps? Eh bien il répond que la continence ayant pour sujet la volonté, l'incontinence va évidemment travailler avec notre âme, voilà ce qu'il dit. L'incontinence ne s'applique pas aux animaux. Elle se rapporte à ce qui nous en distingue principalement à notre âme. Les animaux n'ont pas d'âme intellectuelle. Ils ont une âme végétative, une âme sensitive, mais ils n'ont pas d'âme intellectuelle, ils n'ont pas de raison. Donc, le corps, donc, va fournir des occasions pour les passions de l'appétit sensitif, mais ces passions, si violentes qu'elles soient, restent toujours des occasions et n'en sont pas la cause suffisante et vraie. L'homme, en effet, tant qu'il jouit de l'usage de la raison, peut, avec l'aide de cette raison, toujours le résister. Et dès qu'il en est pravé totalement, il n'y a plus lieu de parler de continence ou d'incontinence, parce qu'il n'y a plus de volonté. L'incontinence est dans l'âme elle-même qui néglige à résister aux passions. Donc les passions doivent être contrôlées par la volonté par l'intelligence, et l'intelligence par le bon Dieu. Donc l'intelligence, c'est la raison. Seuls les hommes ont cette intelligence. Un animal n'a pas d'intelligence. Vous allez me dire, mais l'homme est un animal. C'est vrai, mais l'homme est un animal raisonnable. Donc la différence essentielle qui existe entre l'âme d'un homme et l'âme d'un chat, par exemple, c'est que l'âme d'un homme est à la fois une âme végétative, parce qu'elle a la vie, une âme sensitive, parce qu'elle sent les choses, et une âme intellectuelle, parce qu'elle raisonne. L'âme d'un chat est simplement une âme végétative, parce qu'elle vit, le chat vit, il est vivant, c'est un être vivant, et une âme sensitive. Il n'y a pas d'âme raisonnable dans un chat. Faites attention aux termes qu'on utilise. Souvent, les gens nous disent, monsieur l'abbé, mon chat est très intelligent, il arrive à ouvrir les portes. Il n'arrive pas à ouvrir les portes, parce que je connais des chats qui arrivaient à ouvrir les portes, c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont intelligents. Ça veut dire qu'ils ont un instinct développé, qu'ils ont compris qu'en se mettant sur leurs pattes de derrière et en sautant sur la poignée de porte, ils arrivaient finalement à ouvrir la porte. Mais ce n'est pas un acte d'intelligence. Il n'y a pas d'intelligence chez un chat. Il n'y a pas d'intelligence chez un dauphin. Il n'y a pas d'intelligence chez un chien. Il y a un instinct plus ou moins développé. Ça, il faut bien comprendre. Alors, l'incontinence est-elle un péché ? Bon, la règle générale est toujours la même. Saint-Thomas répète les choses, qui répète énormément les mêmes choses, justement pour être sûr que ça rentre. Dès qu'un acte se fait volontairement en dehors du contrôle de la raison, il y a toujours un péché. Parce que c'est quelque chose de désordonné. Donc, Saint-Thomas dit bien que l'incontinence est un péché. Voilà ce qu'il va expliquer. L'incontinence qui a pour objet la concupiscence des plaisirs du toucher, les plaisirs du toucher sont certainement les plaisirs les plus ardents chez un homme. L'incontinence qui a pour objet la concupiscence des plaisirs du toucher est un péché non seulement parce qu'elle éloigne l'homme de la raison, mais parce qu'elle recherche des concupiscences dépravées, sa matière spéciale. Donc, Saint Thomas a déjà expliqué, on a déjà vu ça, que les péchés, les tentations de la chair, qui relèvent de la concupiscence de la chair, sont parmi les plus violentes qui puissent s'exercer sur un individu et ont pour objet d'éloigner complètement l'homme du contrôle de la raison. On dit que lorsqu'un homme est sous le pouvoir justement d'actes charnels, il ne peut plus raisonner du tout. Parce que justement la raison est complètement éliminée par la puissance en quelque sorte, de l'attraction charnelle. Article 3 de la question 156, donc je passe assez rapidement sur ces choses-là. J'essaie de vous donner la colonne vertébrale de l'article. Encore une fois, n'oubliez pas que c'est un cours, j'aime pas le terme de vulgarisation, mais c'est un petit peu ça. C'est plus qu'un cours de vulgarisation de la somme théologique de Saint-Thomas que je vous donne. C'est un cours pour vous aider à aimer Saint-Thomas. Mais ce n'est pas du tout un cours qui va tout expliquer sur Saint-Thomas. Hein. Donc l'incontinent, dans l'incontinent, plus exactement, la volonté est inclinée au péché par quelques passions. Par conséquent, l'intempérant est plus coupable que l'incontinent. Pourquoi ? Parce que l'intempérant agit contre la vertu de tempérance, l'intempérant est plus coupable que l'incontinent, parce que la vertu de tempérance est au-dessus de la vertu de continence. On peut dire que la vertu de tempérance contient en elle-même une vertu inférieure, annexe, qu'on appelle la vertu de continence. C'est pour ça qu'on dit que la continence est une partie potentielle de la vertu de tempérance. Il y a une petite note là dans le livre que je suis qui est intéressante. L'intempérant, estimant qu'il est bon de s'abandonner sans frein à toutes les concupiscences, ne fait pas une juste appréciation de la fin derrière. Ensuite, il y a chez lui une habitude contractée. Pourquoi ? Parce qu'il n'est plus sous le contrôle de la raison. Bon. Il est en proie à une maladie, une espèce de maladie chronique. Donc il n'a plus le contrôle de la volonté pour dominer ses passions. À l'aide de la grâce et des avertissements extérieurs, on peut le ramener à la vertu. La guérison de l'intempérance s'obtient aussi par les mêmes moyens, mais elle est plus difficile. Donc, ceux qui ont qui sont intempérants sont plus difficiles à soigner, à guérir que ceux qui sont incontinents. Article 4. L'incontinence de la colère est-elle plus coupable que celle de la concupiscence ? Vous voyez que là, saint Thomas prend le mot incontinent dans un sens différent. L'incontinence de la colère, dit-il en citant Aristote, l'incontinence de la colère est moins honteuse que celle de la concupiscence. Pourquoi ? Parce que les tentations de la chair sont beaucoup plus violentes, beaucoup plus fortes, vont plus en profondeur dans l'âme que les tentations de colère. La colère s'enflamme plus vite que la concupiscence, et donc on lui doit plus d'indulgence, mais elle est moins profonde. La colère se montre à la lumière, la concupiscence, elle, se déguise, se cache. La colère n'agit que sous l'action de la tristesse, la concupiscence agit avec plaisir. Donc les ravages de la concupiscence sont plus graves que les ravages de la colère. Ceci dit, dans certains cas, la colère, si elle n'est pas maîtrisée, si elle n'est pas contrôlée justement par le bon usage de la raison, peut provoquer des catastrophes. Hein. Des meurtres, par exemple, peuvent être provoqués par la colère. Alors, nous passons à la question 157, puisque ces questions-là sont des questions assez courtes. Je peux aller un peu plus vite. À part quelques-unes, ce sont des questions assez courtes. Entre autres, la question 158 sur la colère sera plus longue. Alors, question 157 sur la clémence et la mansuétude. Alors, la clémence, dit saint Thomas, c'est l'article 1, la clémence porte à mitiger la pénalité extérieure. Et la mansuétude adoucit au-dedans de nous la passion même de la colère. Donc, mansuétude, si vous voulez, on pourrait traduire. Mansuétude n'est pas un terme très utilisé en français. On pourrait traduire mansuétude par douceur. L'une de ces vertus empêche d'être cruel dans le châtiment, c'est la clémence. L'autre, de se livrer à l'emportement, c'est la mansuétude. La clémence s'exerce de supérieur à inférieur, la mansuétude se pratique envers tout le monde. Donc, la clémence, c'est mitiger, c'est-à-dire diminuer la pénalité extérieure, sans que la justice ne soit atteinte. Hein, parce que si on supprime complètement la justice, la miséricorde, si vous voulez, qui est exercée sans une colonne vertébrale de justice, devient une fausse miséricorde. C'est quelque chose qui peut être assez dangereux. Hein. Donc, il faut, si vous voulez, la clémence est un acte, une vertu, qui doit être surtout dans les supérieurs. Elle s'exerce donc du supérieur à l'inférieur. Alors que la mansuétude, la douceur, est une vertu qui est pour tout le monde. Donc quelqu'un qui n'exerce pas, n'a pas de charge légale, si vous voulez, n'a pas d'occasion de pratiquer la clémence. Bon. Sauf dans des cas particuliers. Par exemple, un père de famille, même s'il est légalement, il n'a pas une charge politique dans le pays, un père de famille a une charge politique dans sa famille. Il est chef de famille. Donc le père de famille peut avoir à exercer la vertu de clémence pour mitiger une pénalité qu'il doit donner à son enfant, pour l'éduquer. Alors la clémence diminue la peine, dit saint Thomas, par rapport à ce que prescrit la loi commune ou la justice légale, mais non par rapport à ce qu'exige la droite raison, c'est ce que je viens d'expliquer. Quant à la mansuétude, elle est comptée par notre Seigneur au nombre des béatitudes. Rappelez-vous le terme utilisé par notre Seigneur, bienheureux les doux. Je dis que mansuétude ou douceur étaient deux termes synonymes. Donc rien n'empêche que cette mansuétude soit à la fois une vertu, à la fois une béatitude et à la fois un fruit. Il n'y a pas de béatitude sur la clémence. Par contre, il y a une béatitude sur la mansuétude, sur la douceur. Alors, est-ce que ces deux vertus dont on parle, la clémence et la mansuétude, est-ce qu'elles font partie de la tempérance ? Eh bien, saint Thomas explique que ce sont encore des parties qu'on appelle des parties potentielles de la vertu de tempérance, c'est-à-dire des vertus qui sont unies à la vertu de tempérance. La clémence et la tempérance d'un esprit qui a le pouvoir de se venger, qu'il ne fait pas, la clémence aussi diminue les peines. Bon. Alors qu'au contraire, la mansuétude modère la colère, on a déjà vu tout ça, donc certainement se répète. La clémence et la mansuétude sont-elles les plus grandes vertus? Article 4 de la question 157. Alors, saint Thomas va évidemment répondre non, la vertu de charité est largement au-dessus. La clémence et la mansuétude nous éloignent seulement du mal en modérant soit la colère, soit la punition. Modération de la colère, c'est la mansuétude. Modération de la punition, c'est la clémence. Il est plus parfait de faire le bien que d'éviter le mal. Donc, la foi, l'espérance, la charité, la prudence, la justice, qui tendent directement au bien, leur sont évidemment préférables et supérieures. La colère, que la mansuétude modère, est par sa violence un des plus grands obstacles au jugement droit de la raison. De même que dans les grosses tentations contre la pureté, contre la chasteté, la raison n'agit plus, de même dans les grosses tentations de colère, eh bien, le contrôle de la raison n'existe plus non plus. Alors, la vertu de mansuétude, de douceur, la béatitude aussi de douceur, nous dispose à recevoir les enseignements divins. On a toute une série de magnifiques textes de l'Écriture sainte sur ce sujet-là. Recevez la parole de Dieu dans la mansuétude. Soyez doux pour entendre la parole de Dieu. Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. En Saint Matthieu chapitre 11. Même dans d'autres parties d'Ancien Testament, mon fils, dit le Saint-Esprit, faites toutes vos actions avec douceur, c'est-à-dire avec mansuétude, et vous vous attirez l'estime et l'amour des hommes. Malheur à celui, surtout la personne en autorité légale, malheur à cette personne qui n'a que la justice et qui n'a pas la mansuétude pour amener la miséricorde. Il faut bien faire attention à ce que je vous dis là, parce que la mansuétude, je veux dire la miséricorde, ne détruit pas la justice. Mais en quelque sorte, la miséricorde, c'est la goutte d'huile dans les rouages. La goutte d'huile dans le rouage pour justement aider à faire passer, comme on dit vulgairement, faire passer la pilule. D'accord ? Alors ensuite, saint Thomas va aller un peu plus profondément, donc sur, encore une fois, après avoir expliqué les vertus, des clémences et de mansuétude, maintenant il va passer, deuxième partie, à la vertu, le péché opposé, qui est le péché de colère. Bon, colère donc. Et ensuite, il va analyser aussi le péché de cruauté, voyez, pour bien analyser les péchés qui s'opposent à la clémence, c'est la cruauté, ou à la mansuétude, c'est la colère. On commence par la colère, question 158. Alors, est-il, premier article, est-il permis de s'hériter? En gros, ça se traduit souvent par une autre phrase en français. Y a-t-il une sainte colère? Bon, on va faire attention au terme. Beaucoup de gens prétendent toujours être sous l'objet d'une sainte colère. Une sainte colère, ça n'arrive pas tous les matins. Bon. C'est vrai qu'une sainte colère peut exister. Notre Seigneur Jésus-Christ, quand il a vu l'état du temple, il a pris un fouet de corde et il a mis dehors tous les changeurs et tous les marchands du temple, en disant, vous avez fait de ma maison une caverne de voleurs. C'est pas très gentil, mais là, il avait le droit de se mettre en colère. Donc la colère en tant que telle, est un péché, et n'est pas toujours un péché, et même dans certains cas, on pourrait dire qu'une personne qui est en charge, qui ne se met pas en colère quand elle le devrait, commet une faute qui peut être une faute grave. D'accord ? Si une maman, par exemple, voit son enfant faire une grosse bêtise et ne dit rien par faiblesse, ou par paresse, elle peut commettre une faute grave, parce qu'elle va laisser un vice s'introduire dans l'âme de son enfant. Et Saint Jean Chrysostome, un grand père de l'Église, disait « Celui qui s'hérite sans motif sera condamné, mais celui qui a un motif ne le sera pas. » Donc, celui qui s'hérite sans motif commet un péché, celui qui s'hérite avec un motif proportionné ne commet pas de péché. Alors la colère est un péché qui a donné son nom à la vertu irascible. Pourquoi ? Parce que colère en latin, ça se dit ira, I-R-A, et la vertu, la faculté irascible, c'est une le pouvoir de notre âme, encore une fois, j'ai déjà expliqué tout ça, le pouvoir de notre âme pour lutter contre les obstacles qu'on rencontre dans la pratique du bien. Bon. Donc, la colère, qui est en tant que faculté irascible, n'est comme passion de l'appétit sensitif, ni bonne ni mauvaise en elle-même. Pourquoi ? Parce que, de même, si vous voulez expliquer ça par une comparaison, de même que l'intelligence en soi ni bonne ni mauvaise, c'est le mauvais usage de l'intelligence qui en fait quelque chose de mauvais, ou le bon usage de cette intelligence qui en fait quelque chose de bon. De même, la volonté n'est ni bonne ni mauvaise. Hein? La volonté, ce n'est pas une puissance de notre âme. Bon. De même, l'irascible. L'irascible en tant que tel n'est ni bon ni mauvais. Bon. C'est lorsque l'irascible est utilisé avec le contrôle de la raison, elle est bonne. Lorsque l'irascible est utilisé sans le contrôle de la raison, elle devient mauvaise. C'est pareil pour le concupiscible. Le concupiscible en tant que tel n'est ni bon ni mauvais. Si le concupiscible est utilisé avec le contrôle de la raison, elle est bonne. Il est bon, pardon, si le concupiscible est utilisé sans la puissance, le contrôle de la raison, il devient mauvais. Donc, la colère devient mauvaise, dit saint Thomas, ainsi que toutes les passions, par excès ou par défaut, et c'est ce qui arrive dès qu'on ne se tient pas dans un milieu raisonnable. Pourquoi ? N'oubliez pas que nous sommes dans les vertus morales, les vertus cardinales. Et les vertus cardinales sont des vertus qui se placent toujours entre deux excès. Donc, la clémence, par exemple, puisque là, c'est ça dont parle saint Thomas, la clémence et la mansuétude sont entre deux excès. On peut avoir trop de clémence, ça devient péché, pas assez de clémence, ça devient péché. Quand c'est bien régulé par la raison entre les deux, c'est bon. La mansuétude, c'est pareil. On peut avoir trop de mansuétude ou pas assez de mansuétude. Si on a trop de mansuétude ou pas assez de mansuétude, c'est un péché. Si on est entre les deux, bien contrôlé par la raison, il n'y a plus de péché. Donc, la colère conçue par un motif légitime et renfermée dans le juste borne, loin d'être blâmable, elle est louable, dit saint Thomas. Il est donc permis de s'irriter, encore une fois, quand il y a une raison proportionnée. On peut même aller plus loin que ça en disant qu'il y a un devoir de s'irriter lorsque les choses sont nécessaires, lorsque la réaction est nécessaire. Imaginez un homme qui voit sa femme attaquée par un malfrat et qui fait rien, qui dit rien sous prétexte que c'est un pacifique. Eh bien, un pacifiste, eh bien, il pécherait gravement contre son devoir d'État de protéger sa femme. D'accord. Alors, les stoïciens étaient des gens, surtout dans la philosophie grecque, les stoïciens étaient des gens qui prétendaient, chez les Romains aussi, qui prétendaient que toutes les passions sont condamnables. Bon, les passions en tant que telles, lorsqu'elles sont contrôlées par la raison, ne sont pas des choses condamnables. Les passions de l'âme sont de simples mouvements de l'appétit sensitif. Donc, encore une fois, lorsque la colère est renfermée dans le juste borne, non seulement elle n'est pas blâmable, mais elle est louable. Elle est légitime quand elle suit la raison. Il est défendu, c'est vrai, de vouloir la vengeance ou la punition d'un coupable par haine pour sa personne, mais il est louable de la désirer pour la correction du vice et la conservation de la justice. Bon, votre femme s'est fait attaquer par un malfrat, vous souhaitez que le malfrat soit trouvé et condamné. Bon, est-ce que c'est un péché ? Non. Hein, parce que la justice est là, en principe, pour condamner les coupables et innocenter ceux qui n'ont rien fait. La colère, quand elle... Donc saint Thomas va justement expliquer quand la colère est-elle un péché. Il suit donc de ce qui a été dit, dit saint Thomas, que la colère peut pécher de deux manières. D'abord dans son but, qui est la vengeance, parce qu'elle agit contre la raison, soit qu'elle punisse un innocent, soit qu'elle punisse pour un autre motif que le maintien de la justice et le châtiment d'une faute. Par exemple, on peut dans certains cas être en colère ou punir par vengeance. Ensuite, dans sa mesure même, quand elle se laisse aller à un emportement excessif, soit au-dedans de l'âme, soit en dehors. Et donc il faut, pour une fois, faire attention à tout ça. Alors, saint Thomas se pose la question de savoir si toute colère, sous-entendu colère illégitime, colère sans le contrôle de la raison, est-ce que la colère est systématiquement un péché mortel ? Bon. Alors, il va faire des distinctions. Comme désir d'une injuste vengeance, la colère est dans sa nature un péché mortel. Ce qui veut dire que, comme désir d'une vengeance juste, la colère n'est pas un péché mortel. Il faut bien analyser chaque terme. Il dit bien, comme désir d'une vengeance injuste, la colère est dans sa nature un péché mortel. Donc, se mettre en colère pour que le coupable soit condamné, c'est en soi quelque chose qui n'est pas pécaminant. Elle peut être cependant vénielle à cause de l'imperfection de l'acte, tant de la part du sujet, qui n'a pas suffisamment réfléchi, que de celle de l'objet, trop minime pour constituer un péché mortel, alors même qu'il serait réalisé. N'oubliez pas, que j'ai déjà expliqué plusieurs fois, qu'il y a trois conditions pour qu'il y ait péché mortel. Entre autres, il faut matière grave. Donc, que l'objet soit important. Enfin, si connaissance et consentement. Comme irritation intérieure ou extérieure, donc la colère, dit saint Thomas, n'est pas par elle-même un péché mortel, mais elle peut y conduire en portant par son excès à violer l'amour de Dieu du prochain. Bon. C'est évident que si quelqu'un, par un excès de colère, fait du dégât, si vous voulez, parce que, il donne une claque à son fils et, sous la colère et qui blesse son fils, il est évident que dans ce cas-là, en soi, il y a faute grave. Bon, il n'y aura pas forcément faute grave si le père n'a pas voulu blesser son fils. Il n'a pas fait exprès. Il a donné une claque à son fils et puis il n'a pas fait attention, il a tapé un peu fort et il a blessé son fils. Bon, il est sûr qu'il a exagéré dans la punition qu'il a voulu donner à son fils. Cependant, si c'est une faute non voulue directement, il n'a pas eu l'intention de blesser son fils, ce n'est pas un acte de cruauté coupable. On verra tout ça après. Donc, si la colère nous porte à violer directement l'amour de Dieu du prochain, alors on a des fautes graves. Alors, Saint-Thomas suit toujours le même plan. Si vous voyez, la colère, article 4 de la question 158, la colère est-elle, demande-t-il, est-elle le péché le plus grave? Du côté de l'objet désiré, la colère n'est pas le plus grave des péchés. Mais quant au mode, la colère est plus déréglée que les autres passions à cause de la violence et de la rapidité de ses mouvements. Encore une fois, ça dépend beaucoup aussi du tempérament des gens. Il y a quatre tempéraments. C'est évident qu'un la colère, par exemple, chez un homme de tempérament colérique, justement, c'est pour ça qu'on donne ce nom, un homme de tempérament colérique aura une propension à la colère beaucoup plus forte et même dangereuse, beaucoup plus dangereuse que la colère, par exemple, chez un phlegmatique. Il en faudra beaucoup plus pour mettre en colère un phlegmatique. Même un phlegmatique ne se mettra pratiquement jamais en colère. Donc, encore une fois, ceux qui ont, par exemple, un tempérament colérique, par exemple, parce qu'ils réagissent très vite à une tentation, à ce qu'on appelle un stimulus psychologique ou physique, et donc ils réagissent extrêmement vite, et la réaction dure dans le temps, eh bien, ils ont ce qu'on appelle souvent des colériques. Les colériques doivent faire très attention à leur emportement, parce qu'ils peuvent faire des grosses bêtises, justement, quand leur colère n'est plus contrôlée par la raison. Et donc, dans certains cas, la violence et la rapidité des mouvements de la colère peuvent être extrêmement dangereux. Bon. Article 5, saint Thomas pose avec Aristote la question de savoir s'il faut partager les gens irascibles en trois classes, les violents, les amers et les difficiles. Alors, voilà ce que dit Aristote. Saint Grégoire, le pape Saint Grégoire, donc le grand, a repris un petit peu ça aussi dans certains de ses écrits. Donc voilà ce que dit saint Thomas. Parmi les hommes, les uns s'irritent promptement et pour des causes légères, ce sont les violents. Les autres conservent longtemps le chagrin causé par une injure, ce sont les amers. Les troisièmes, par un désir obstiné de vengeance, ne s'apaisent qu'après avoir puni, ce sont les caractères difficiles et implacables. Donc trois classes de gens irascibles, donc colériques, les violents, les amers, les difficiles. Bon. Quand saint Thomas parle de ceux qui conservent longtemps le chagrin causé par une injure, ce sont les mélancoliques. Un mélancolique est comme ça, un mélancolique est capable de garder une injustice ou quelque chose qu'il juge comme une injustice contre lui pendant des années et des années, il ne se sentira jamais, tout reste à l'intérieur. Que les enfants mélancoliques, c'est certainement un des tempéraments les plus riches. Hein. Les tempéraments mélancoliques, c'est ceux qui réagissent lentement à un stimulus et la réaction dure dans le temps. Celui qui a ce genre de tempérament, de mélancolique, se repère très rapidement parce qu'il boude. La bouderie est la caractéristique du mélancolique. Et la bouderie est souvent provoquée par cela, par un chagrin causé par une injure. Ce sont des gens amers. Donc ils considèrent qu'ils ont été injustement punis, par exemple, par leur père. Et donc ils vont garder ça contre leur père pendant parfois des années et des années. Il faut faire attention, bien distinguer dans la façon dont vous éduquez vos enfants. On n'éduque pas un enfant mélancolique de la même façon qu'on éduque un enfant colérique. Un enfant colérique est un enfant qui va vite oublier une punition. Un enfant mélancolique, au contraire, va garder dans son âme, dans son cœur, cette punition pendant parfois très très longtemps. Alors, article 6. La colère doit-elle être rangée parmi les vices capitaux ? Donc, les 7 vices capitaux. Je rappelle que les vices capitaux ne sont pas forcément des péchés mortels, ce sont des péchés qui sont à l'origine de beaucoup d'autres péchés, qui sont les sources d'autres péchés. Et donc, saint Thomas répond en disant que la colère produit beaucoup de péchés. Et donc, il en résulte, dit-il, que l'impétuosité de la colère nous précipite dans toutes sortes de dérèglements. Pour ce motif, la colère doit donc être rangée parmi les vices capitaux. Ensuite, article 7, donc je vais un peu vite sur ces questions-là, c'est des questions sans grande difficulté, donc c'est relativement facile à expliquer. Rien ne vous empêche, encore une fois, dans votre temps libre, d'aller directement au texte de saint Thomas pour ceux qui ont la somme de saint Thomas. Vous pouvez trouver assez facilement sur Internet. Est-il convenable, article 7 de la question 158, est-il convenable de dire que la colère a des filles ? Filles de la colère, c'est-à-dire des conséquences de la colère. Il y en a 6. L'indignation, l'enflure, la clameur, le blasphème contre Dieu, l'injure contre le prochain, la querelle. Alors, voyons un petit peu ces choses-là. L'indignation et l'enflure sont suite du mépris qu'elle fait naître dans le cœur d'un homme contre celui dont elle veut tirer vengeance. La clameur, par laquelle elle éclate en parole contre celui qui dit à son frère « raca » dans l'évangile, mot qui dénote un langage confus et désordonné. En gros, c'est une injure. Hein. Bon. Vous pouvez traduire « raca » gentiment par « espèce d'imbécile », si vous voulez. Le blasphème contre Dieu et l'injure contre le prochain, encore des filles, donc, arrangées comme filles de la colère, et enfin, la querelle, qui passe des paroles aux actions. Article 8, de la question 158. Y a-t-il un vice opposé à la colère par défaut ? Et saint Jean Chrysostome répond en disant « Celui-là pêche qui ne se met pas en colère quand il se doit, quand il le doit. Une patience excessive est une semence de vice. Elle entretient la négligence et invite au mal non seulement les méchants, mais même les bons. » Phrase très forte. Donc, en gros, quand on voit le texte de saint Chrysostome, on comprend que celui qui ne se met pas en colère alors qu'il le devrait est certainement plus coupable que celui qui exagère dans sa colère. Parce que celui qui ne se met pas en colère quand il le devrait, dans l'éducation de ses enfants par exemple, ouvre une porte qui va être utilisée comme une avenue par le démon pour entrer dans l'âme de l'enfant. Beaucoup d'enfants, on entend ça tout le temps, quand on parle surtout des langues catholiques. Ah, moi, mon enfant, ma petite fille de 2 ans, c'est un trésor. C'est mon trésor. Ah, bon. Alors, elle fait ce qu'elle veut parce que c'est mon trésor. Quand j'entends une dame qui me dit ça devant moi, qu'est-ce que catholique ou non d'ailleurs, je dis, eh ben, la pauvre, je la plains de tout mon cœur. Alors, évidemment, la dame me fusille du regard. Je dis, oui, madame, parce que si vous laissez faire à votre fille tout ce qu'elle veut, je vous assure qu'elle ne va pas rester votre trésor très longtemps, elle va devenir impossible. Elle va devenir une ensorceleuse, une jeune fille est impossible parce que vous lui aurez justement passé tous ses caprices. Malheur à la personne à qui vous passez tous les caprices. Je vous répète cette phrase de saint Jean Chrysostome, celui-là pêche qui ne se met pas en colère quand il le doit, parce que c'est une excessive bonté, une patience excessive est une semence de vice, elle entretient la négligence, invite au mal non seulement les péchés, mais même les bons. Les bons vont se décourager en voyant que le vice n'est plus combattu et donc vont se laisser gagner par ce vice. Et on le voit très nettement aujourd'hui. Une des raisons pour lesquelles les vices contre nature de la sodomie, l'homosexualité, tous ces trucs-là, se sont diffusés dans le monde entier comme une traînée de poudre, c'est parce que ceux qui auraient dû rappeler l'enseignement du catéchisme sur le sujet ne l'ont pas fait. C'est-à-dire, pour moi, une des personnes qui est le plus responsable, qui a la plus de responsabilité de la prolifération de ce vice contre nature de la sodomie, c'est certainement Bergoglio. Après qu'il a dit, qui suis-je pour juger un sodomite, pour juger un homosexuel. Donc il a ouvert toutes les portes. Il a ouvert toutes les portes et des tas de gens maintenant tombent dans ce vice contre nature, justement à cause de ces portes qui ont été ouvertes, laissées ouvertes alors qu'elles auraient dû être soigneusement fermées, parce que c'est vraiment dans ce sujet-là qu'il faut rappeler à temps et à contre-temps, selon le terme de Saint Paul, rappeler à temps et à contre-temps la nécessité absolue de lutter contre ces vices contre nature, contre ce vice contre nature qui est arrangé par l'Église catholique dans les vices qui crient vengeance contre le ciel. Question 159. Attendez, j'ai oublié une petite chose là. Oui, j'ai oublié une note, une partie importante dans l'article 8 de la question 158, je vais terminer par ça. La colère ne serait donc manquée totalement dans la partie sensitive de notre être que par l'absence ou par la faiblesse de la volonté, chose non moins vicieuse que le défaut d'énergie quand on doit punir selon le jugement de la raison. Donc ce défaut d'énergie qui nous empêche de punir alors qu'on devrait le faire, vienne ou entraîne une faiblesse de la volonté. Donc une espèce de faiblesse qui consiste, comme on dit un peu vulgairement, et c'est vrai, qui consiste à vouloir mettre des coussins toujours sous tous les coudes pour empêcher les gens de se faire mal. À force de mettre des coussins sous tous les coudes, et bien les gens commencent par boire l'iniquité comme l'eau, c'est ce qui se passe aujourd'hui. À force de parler de liberté de conscience à longueur de journée, bon, on a fait croire aux gens qu'ils pouvaient suivre leur conscience. Alors que la liberté de conscience, je vous le rappelle, avait été solennellement condamnée pendant 20 siècles, notamment par le pape Pie IX dans Quanta Cura, avec son texte essentiel dans lequel il dit expressément que la liberté de conscience est une liberté de perdition et une insanité. Je crois que c'est 1868, parfois je me trompe dans les dates, mais je crois que c'est ça. Donc, article, question 159 maintenant, donc la cruauté. La cruauté. Une question très courte, donc il n'y a que deux articles, c'est vite traité par saint Thomas. La cruauté, donc, qui s'oppose à la clémence. La cruauté est définie par saint Thomas, il reprend un texte de Sénèque, comme l'atrocité de l'âme dans le châtiment. Donc l'homme cruel n'est pas compatissant, l'homme clément est plein de miséricorde. Donc la cruauté est caractérisée par l'absence totale de compassion, de miséricorde. Le cruel est incapable d'aider celui qui souffre. Cruauté est un signe très caractéristique de la société actuelle. On le voit partout, entre autres la cruauté, par exemple, la cruauté des j'ai remarqué souvent que les jeunes qui sont très tentés par la musique rap, par la musique rock et toutes ces bruits divers et variés, comme on dit, sont en général des gens extrêmement, extrêmement violents. Et étant violents, sont des hommes de plus en plus, des gens qui sont de plus en plus cruels. Une espèce de cruauté chez eux, à l'égard des petits, à l'égard de ceux qui souffrent, à l'égard de ceux qui sont dans la difficulté. Et aussi, ça se traduit souvent par une cruauté à l'égard des animaux. La cruauté à l'égard des animaux, je ne veux pas du tout tomber dans les excès, évidemment, de langage dans ce domaine-là, qui sont très fréquents aujourd'hui, mais la cruauté à l'égard des animaux, surtout pour un enfant, est un très mauvais signe. Quand un enfant est cruel à l'égard de son chat, par exemple, ou de son chien, ou du chat, ou du chien de la maison, c'est un mauvais signe. Il y a de la fibre de garnement là-dedans. Donc faire attention, les parents doivent faire attention aussi, vous allez me dire, mais c'est beaucoup moins grave. C'est plus grave que vous ne le pensez, parce que c'est la cruauté à l'égard des créatures de Dieu. Un chat, c'est une créature de Dieu, hein. Bon, c'est pas une créature raisonnable, c'est sûr, mais c'est une petite créature de Dieu. Donc, je parle pas du bébé qui s'amuse à tirer les poils du chat ou à tirer le chat par sa queue, parce que c'est pas ce qu'il fait, c'est pas ça que je veux dire. Mais quelqu'un s'amuse à persécuter un animal, un enfant qui s'amuse à persécuter un animal, c'est un mauvais signe. Mauvais signe. Et quand les préparations au mariage, ou les jeunes filles qui pensent à se marier et qui me parlent d'une personne, mais quand je sais que cette personne est cruelle à l'égard des animaux, je déconseille le mariage à cette jeune fille. Attention, il est cruel avec les animaux. Oui, mais il ne sera pas cruel avec moi. Ben, vous vous trompez, mademoiselle. Parce que s'il est cruel avec les animaux, il sera cruel avec les animaux raisonnables que sont les hommes. Il sera cruel avec vous, il sera cruel avec vos enfants. Question 160. Alors, toujours dans la vertu, dans le traité de la tempérance, dans des choses complètement différentes, la modestie. Bon, on va parler de la modestie et ensuite des différentes espèces de modestie, surtout de l'humilité, avant de toucher au vice contraire, à savoir l'orgueil. Alors, la modestie, qu'est-ce que c'est que la modestie? Donc voilà ce que dit saint Thomas. De même que, après la magnificence qui règle les grandes dépenses, la libéralité dirige les dépenses médiocres, de même après la tempérance qui modère les plaisirs du toucher, la modestie réprime les autres choses plus faciles à régler. Elle est unie à la tempérance comme une vertu secondaire à la vertu principale. Bon. Alors, sur quoi s'exerce la vertu de modestie? Bon. La vertu de modestie, si vous voulez, tient son origine du mot « mode ». Donc c'est une vertu qui va remettre les choses à sa place. Chacun à sa place, chaque chose à sa place. La modestie, donc une vertu qui va régler quatre choses. D'abord, l'inclination de l'âme à sacrer de s'attribuer l'excellence, inclination réprimée par l'humilité. Deuxièmement, la modestie règle le désir de savoir, désir modéré par l'amour de l'étude, opposé à la curiosité qui nous pousse à savoir tout connaître, y compris les choses qui ne sont pas pour nous. Troisièmement, la modestie règle les actions du corps dans les jeux, comme dans les fonctions sérieuses. Et quatrièmement, la modestie règle également les ornements extérieurs, les vêtements et les autres choses pareilles. Il faut noter qu'en français, le mot modestie a surtout comme sens de régler, d'être la vertu qui règle les ornements extérieurs, les vêtements et autres choses, et également qui règle le comportement du corps, surtout en public. On va voir tout ça. Donc, la modestie concerne non seulement les actions extérieures, mais les mouvements intérieurs de l'âme. C'est pour ça qu'on peut parler avec raison d'une âme modeste. Donc, je répète ces quatre choses. Donc, la modestie règle quatre choses. L'inclination de l'âme à s'attribuer l'excellence, c'est l'humilité. Le désir de savoir, c'est la curiosité. Les actions du corps, dans les jeux, comme dans les fonctions sérieuses, et quatrièmement, les ornements extérieurs. Alors, voyons les différentes espèces maintenant de modestie. D'abord, de l'humilité. C'est la question 161. Donc, la modestie règle notre intérieur par la douceur et l'humilité, et notre extérieur par la décence et l'honnêteté. Il y a plusieurs vertus ici qui sont des vertus qui se recoupent. Et ce sont des vertus extrêmement importantes. Hein. La vertu d'humilité est certainement une des vertus les plus importantes. On dit que l'humilité est le terreau de toutes les vertus, c'est parfaitement exact. C'est pas aussi important, bien sûr, que la vertu de charité, mais il n'y a pas de vertu de charité sans humilité. Hein. On ne peut pas faire pousser une graine si on ne plante pas la graine dans un bon terreau. Eh bien, le terreau de la vertu de charité, et même de la vertu de foi et la vertu d'espérance, donc les vertus les plus importantes, le terreau de ces vertus, c'est la vertu d'humilité. Alors, l'humilité est-elle une vertu? Donc, voilà ce que nous dit saint Thomas. Donc, il cite la phrase de l'ange Gabriel, la phrase de la très sainte Vierge Marie. Il a regardé, dans son Magnificat, il a regardé l'humilité de sa servante. Il cite également notre Seigneur lui-même, « Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. » Donc le roi des rois, le créateur de l'univers, le rédempteur, le créateur de toutes les choses de la terre, de tout ce qui existe, le créateur dit « Je suis humble. Je suis humble de cœur. » Alors, dans toutes les choses difficiles et désirables, pour leur bonté, nous sommes soumis à une double force. L'une d'attraction, suite de leur bonté même, l'autre de répulsion à raison de leur difficulté à les atteindre. De là, deux passions de l'âme, l'espérance et le désespoir. Pour régler ces deux mouvements d'attraction et de répulsion, il faut donc deux vertus différentes, deux vertus distinctes. L'une pour affermir notre esprit contre les difficultés et en le préservant du désespoir, l'exciter dans une juste mesure à la poursuite des grandes choses. C'est ce que fait la magnanimité, la grandeur d'âme. L'autre, au contraire, pour réprimer notre tendance à nous élever d'une manière déréglée dans le mouvement d'attraction vers le bien, c'est ce que fait l'humilité. Et donc, il y a, encore une fois, on voit bien un équilibre, un jeu d'équilibre qui est très important pour toutes les vertus morales, toutes les vertus cardinales. Donc, équilibre, on peut tomber en excès ou en défaut par rapport à ces vertus. Donc la magnanimité, la grandeur d'âme, pour la poursuite des grandes choses, et l'humilité pour nous empêcher de tomber dans le dérèglement au niveau de l'attraction vers le bien. Il faut être équilibré dans les choses, même dans l'attraction qu'on a vers le bien. Méconnaître sa dignité d'homme, se comparant aux animaux et se faire semblable à eux, voilà un abaissement coupable. Ça, c'est une fausse humilité. Simuler en dehors une humilité qu'on n'a pas, c'est en fait souvent de l'orgueil, par lequel on tend à l'excellence de la gloire. La vraie humilité consiste donc à se soumettre à Dieu et aux hommes à cause de Dieu. De même qu'on aime le prochain à cause de Dieu, on doit aussi se soumettre aux hommes qui sont en autorité au-dessus de nous à cause de Dieu. Donc, l'humilité est une vertu. Article 2 de la question 161. L'humilité consiste-t-elle dans la volonté ou dans le jugement ? Bon, le propre de l'humilité, explique saint Thomas, c'est d'empêcher de s'élever plus qu'il ne convient. C'est-à-dire, c'est une vertu qui va nous maintenir dans au bon niveau, dans le bon mode. Bon, un peu comme la vertu de modestie. La vertu même de l'humilité à laquelle la connaissance sert de règle pour diriger la puissance appétitive consiste essentiellement non dans le jugement de la raison, mais dans la volonté dont elle réprime les appétits. Donc l'humilité est, d'après saint Thomas, un frein qui va agir sur la volonté, qui va calmer la volonté. Tendre à ce qui est grand par confiance en ses propres forces, par exemple, c'est contraire à l'humilité. Mais y tendre par confiance en Dieu, ce n'est point un acte d'orgueil. Plus on reconnaît sa faiblesse, plus on est grand devant le Très-Haut. Dieu élève celui qui s'abaisse en sa présence et renverse quiconque s'élève contre lui. Donc l'humilité est une vertu fondamentale, surtout aujourd'hui. S'il fallait définir le monde moderne, c'est un monde qui est complètement détruit par l'orgueil. Alors, saint Thomas, justement, faire les distinctions qui s'imposent, parce qu'il peut y avoir une fausse humilité, et parfois, il y a des gens qui sont trop humbles, et qui ne devrait pas là-dedans. Quelqu'un qui, au nom de l'humilité, ne dit pas ce qu'il doit dire peut pécher gravement. Quelqu'un qui, au nom de l'humilité, ne fait pas ce qu'il devrait faire peut aussi pécher gravement. Donc l'homme doit-il, par humilité, se soumettre à tout le monde ? Donc saint Thomas d'Aquin va expliquer. Il y a en nous deux choses, ce qui est de Dieu et ce qui est de nous. Ce qui vient de nous, ce sont nos défauts. Ce qui est de Dieu, c'est ce qui tient au salut et à la perfection. Donc, c'est saint Augustin qui dit d'une façon, il dit tout ce qui est bon en vous vient de vous-même. Tout ce qui est mauvais, je veux dire, tout ce qui est bon en vous vient de Dieu, dit-il. Tout ce qui est mauvais en vous vient, au contraire, de vous-même, de votre propre fond. Donc l'humilité est presque avant tout le respect et la soumission envers Dieu. Elle demande donc que l'homme soumette ce qui vient de lui-même à ce qui est de Dieu dans le prochain. Donc ce serait une fausse humilité de ne pas voir, par exemple, les vertus que Dieu a mises en vous. Elle n'exige pas donc cette vertu qu'il soumette ce qui est certainement de Dieu en lui à ce qui peut paraître être de Dieu dans un autre. Vous voyez ? Donc il faut distinguer les choses. Ceux qui ont des dons de Dieu savent très bien qu'ils les possèdent, mais qu'il faut qu'il les possède par un don, comme un don gratuit de Dieu. Donc il faut qu'il le sache. Ils peuvent, sans blesser l'humilité, préférer ces dons à ceux qui semblent avoir été faits aux autres hommes. Ce n'est pas empêcher de reconnaître que telle personne, que j'ai peut-être certaines vertus que d'autres personnes n'ont pas. Mais attention, se maintient dans l'humilité, dans la véritable humilité, qui va consister à dire j'ai reçu certainement des grâces que mon voisin n'a pas reçues, et si mon voisin avait reçu les mêmes grâces que moi j'ai reçues par pure miséricorde du bon Dieu, eh bien mon voisin serait sans doute 10 fois plus saint que moi. Et si au contraire j'étais dans la même situation de carence en grâce que mon voisin, je serais sans doute 10 fois pire que lui. Oui. L'humilité, dit saint Thomas, n'exige pas non plus que nous soumettions ce qui nous appartient à ce qui est de l'homme dans le prochain. Autrement, il faudrait se croire plus pécheur que tout autre. L'humilité ne consiste pas, encore une fois, à prétendre être une serpillière toute la journée. D'accord ? Donc, l'humilité consiste à voir les bonnes choses qui sont en nous, voir les vertus naturelles et même infuses qui sont en nous, mais reconnaître que ces vertus sont des dons de Dieu. Cependant, pour nous maintenir justement dans cette humilité, nous pouvons croire que le prochain peut avoir des dons cachés que nous n'avons pas, ou que nous avons des défauts qu'il n'a pas. Pour cette raison, nous devons nous soumettre à lui par humilité. Vous voyez qu'il y a une façon de pratiquer l'humilité. Il n'y a rien de plus détestable que des faux humbles, des gens qui ont la fausse humilité. Alors saint Thomas continue en se posant la question de savoir si l'humilité fait partie de la modestie et de la tempérance. On va essayer de terminer cette question 161 sur l'humilité. C'est une question importante, je vais essayer de la terminer. Avec l'article 4, s'il y a encore 4, 5, 6, 3 articles. L'humilité fait-elle partie de la modestie et de la tempérance? Bon, et saint Thomas explique bien que l'humilité fait partie de la tempérance. C'est pour ça qu'il en parle dans le traité sur la tempérance. Comme la modestie, elle-même dans laquelle elle est comprise, elle marque une modération de l'âme. Donc, la vertu d'humilité est une partie, on peut dire, de la vertu de tempérance et une partie de la vertu de modestie. Donc, il y a tempérance en haut, modestie au milieu, humilité en bas. L'humilité est-elle la plus grande des vertus? Saint Thomas pose toujours cette question quand il étudie une vertu déterminée. Il répond toujours la même chose. La plus grande des vertus n'est pas l'humilité, c'est la charité. Non. Alors, l'humilité, attention, je vous l'ai déjà expliqué, est comme disposition à la grâce le fondement de toutes les vertus. C'est pour ça que les pères disaient c'est le terreau des vertus. C'est la terre dans laquelle on plante la graine de toutes les vertus. Pas d'humilité, pas de vertu. Si vous voulez élever un édifice d'une grande hauteur, établissez-le sur le fondement de l'humilité. Saint Augustin qui dit ça, je pense, c'est aussi Saint Grégoire. Donc, si vous voulez édifier un immeuble de très grande hauteur, il faut des fondations beaucoup plus profondes que si vous voulez édifier une petite cabane de jardin de 3 mètres de haut. D'accord ? Donc, plus l'édifice que l'on veut construire naturellement ou surnaturellement est élevé, est important et lourd, plus il faut les fondements de l'humilité. Donc ce fondement de l'humilité va bannir l'orgueil, rendre l'homme docile et le préparer à la réception de la grâce. Pas d'humilité, pas de réception de la grâce, pas de réception de la grâce, et bien on va travailler pour nous au lieu de travailler pour le bon Dieu. Rappelez-vous cette phrase de notre Seigneur, « Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. » Il nous a appris par ses exemples à mépriser les grandeurs de la terre, et il a promis aux humbles l'élévation dans la gloire éternelle. Alors, saint Thomas va terminer cette partie donc sur l'humilité avant d'attaquer la question 162 sur l'orgueil. Il va terminer par un extrait de la règle de saint Benoît en se posant la question si saint Benoît a convenablement divisé l'humilité. Dans sa règle, saint Benoît parle des divisions de l'humilité en 12 degrés. Vous savez que la règle de saint Benoît est après l'Évangile, certainement un des petits livres, c'est tout petit la règle de Saint-Benoît, certainement un des livres qui a eu le plus d'influence dans l'histoire du monde, notamment au début du Moyen-Âge, et même avant le début du Moyen-Âge. Donc voilà, je vous donne, à titre documentaire, je vous donne ces 12 degrés de l'humilité selon Saint-Benoît, c'est très intéressant, ça peut nous aider justement pour la pratique de l'humilité, bien que en soi, ces 12 degrés d'humilité sont surtout applicables aux moines dans un monastère. Cependant, c'est aussi bon pour nous, en dehors du monastère. Je vous donne les 12 degrés. tenir les yeux habituellement baissés, ne pas se laisser aller facilement rire, parler peu et d'un ton grave, attendre le temps de parler, suivre dans ses actions la voie commune, penser et avouer que l'on est moins digne que les autres, se croire inutile et indigne de tout emploi, reconnaître et avouer ses défauts, supporter par obéissance avec patience les duretés, régler sa volonté sur celle de son supérieur, ne pas chercher à faire sa volonté propre, et enfin craindre Dieu et se souvenir de ses commandements. Alors si vous arrivez à pratiquer ces 12 degrés d'humilité, vous êtes canonisable tout de suite, dans la foulée. Voilà, donc nous allons arrêter là, et nous verrons, si Dieu veut, la semaine prochaine, donc la question 162 sur l'orgueil. Il y a encore l'orgueil qui est une question importante. Ensuite, saint Thomas va parler du péché originel, du péché du premier homme, de la punition du péché d'Adam et la tentation de nos premiers parents. Beaucoup de choses très importantes et très intelligentes, très intéressantes à étudier. Donc nous allons terminer par une prière. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.